Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans les échos d'innovation et on va vous parler de vie privée et de sécurité. Je suis accompagnée de Iris, Alizé et Louise. Et c'est
Salut.
Iris
et
Beaucoup.
Qui vont commencer par vous parler de la série Black Mirror.
Donc bonjour, vous avez sûrement déjà entendu parler, voire même regardé la série Netflix Black Mirror. Black Mirror est une série autour d'un thème commun de la mise en œuvre d'une technologie dystopique. Le titre Black Mirror fait référence aux écrans omniprésents qui nous renvoient notre reflet. Sous un angle noir et souvent satirique, la série envisage un futur proche, voire immédiat. Elle interroge les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine de ses utilisateurs et inversement.
Chute Livre est le premier épisode de la saison 3 de Black Mirror. L'épisode illustre une société régie par la code personnelle et les notes. Imaginez-vous, vous croisez un étranger. Sans même avoir échangé une seule phrase, vous pouvez directement connaître son nom, sa situation amoureuse, ses dernières activités et sa note sur 5. Mais cela ne se résume pas à une simple note. Elle dirige une partie de votre vie, puisque des activités entières du quotidien sont accessibles ou non en fonction des notes. Des bars, des restaurants, même des emplois, tout, ou presque, est régi par votre note. Lassie, le personnage principal dans la série, veut tout faire pour obtenir l'appartement de ses rêves. Quand son amie d'enfance, au statut irréprochable, lui demande d'être sa demoiselle d'honneur, Lassie voit l'opportunité d'améliorer sa note et de réaliser ses rêves. Tout au long de l'épisode, on suit le périple de Lassie qui essaye de se rendre au mariage de son amie, malgré toutes les péripéties qu'elle rencontre. Les obstacles et les imprévus y changeront bien sûr sa note, mais pas de leur sens qu'elle espérait. Elle va apprendre alors progressivement, grâce aux différentes personnes qu'elle croise sur son chemin, à prendre de la distance avec cette note qui régit son monde, sa vie. Et alors, à reconnecter en quelque sorte à la vie réelle et à sortir de l'hypocrisie ambiante qui emprisonne son monde.
Aussi terrible soit-il, ce type de technologie et de concept semble s'installer peu à peu en Chine. En effet, un système analogue au concept de notation de Black Mirror, nommé le crédit social, est en phase de test depuis 2018. Le principe de ce crédit social chinois, qui a pris forme dans les années 2000 avec le théoricien chinois Lin Junyu, serait de mettre en place un système de bonus et de malus liés au respect ou non de certaines règles. Ce concept a été créé en réponse aux difficultés d'application de certaines lois et décisions judiciaires. En effet, bien que le système législatif de la République populaire de Chine soit connu pour être très exigeant et strict, beaucoup de citoyens et organismes continuent de passer outre certaines règles. Ils pousseraient les citoyens à respecter leurs obligations et à ne plus commettre de fraude. Ce crédit social, évalué entre 350 et 950 points, permet de mesurer la réputation d'une personne ou d'une entreprise à partir d'informations récoltées grâce aux outils de surveillance de masse chinois. Par exemple, une application venant de Shanghai utilise le logiciel de reconnaissance faciale pour scanner des dossiers gouvernementaux et évaluer les utilisateurs. Les utilisateurs de cette application ont accès à leurs scores et les publient même sur les réseaux sociaux, par exemple. Cependant, cette application évalue uniquement en fonction des actions des usagers sur Internet. En 2020, plus de 400 millions de caméras de surveillance auraient été mises en place dans les rues. La majorité d'entre elles sont équipées de technologies permettant la reconnaissance faciale des individus avec une modélisation des visages des passants. Certaines d'entre elles seraient même aptes à reconnaître une personne de dos grâce à sa démarche. Une phase de test dans les transports a débuté en 2018, interdisant le voyage en avion ou en train des personnes ayant un score infusant un certain seuil, ce qui empêcherait, donc avec ce crédit social, à certains individus de quitter le pays.
Or, le crédit social, en Chine, est plutôt assez bien reçu, plus particulièrement dans les communes rurales. En effet, ce système de notation serait perçu comme un outil permettant de devenir une meilleure personne, un meilleur citoyen. Les notes ont une influence dans le quotidien des Chinois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Un citoyen très bien noté peut être affiché sur des panneaux publicitaires dans leur ville pour les féliciter. Quand un citoyen mal noté, sans environ 20 millions de citoyens, il se voit attribuer une sonnerie de téléphone spéciale informant les proches, les joignants, et leur indiquant qu'il faudrait essayer de les redresser et de les remettre dans le droit chemin. L'épisode de Black Mirror, Nosedive, est censé mettre en garde des dangers posés par la technologie numérique. Or, nous nous rendons compte que cette situation est une réalité, comme nous le montre le Crédit Social en Chine. Nous nous retrouvons à remettre en question un système politique complexe qui va guider nos réflexions sur les technologies numériques. La question du traitement des données et de leur usage dans les sociétés est un sujet sérieux sur les libertés publiques et individuelles.
Bon, maintenant, on va vous parler d'un sujet qui nous atteint beaucoup plus puisqu'il s'agit d'un thème qui est vers la France. On est amené à réfléchir aux mesures de protection qui vont être mises en place pour les JO de Paris 2024. On remarque que ce soit du côté des organisateurs, des mairies ou même du gouvernement, qu'il y a une forte volonté en fait, de faire appel aux technologies, en particulier à l'intelligence artificielle, pour assurer la protection des différents lieux de rassemblement durant cette période. Et on parle ici pas uniquement des stades et des lieux de rencontres sportives, mais aussi des lieux de rassemblement des supporters, ce qui en final englobe l'entièreté de la capitale. On nous vend le projet comme étant indispensable, puisqu'on indique que son utilisation sera nécessaire pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes lors de ces événements, puisque l'œil humain serait incapable d'analyser les informations en temps réel dues à une trop forte masse de population. On remet donc en cause les événements organisés par le passé, où on n'a pas forcément fait appel à l'intelligence artificielle pour protéger la population. On nous informe qu'il ne s'agirait donc en fait que d'une aide à l'agent de sécurité qui pourrait passer à côté de certains détails lors de l'analyse des caméras.
Oui, bien sûr, mais effectivement, la forte influence peut être handicapante et peut réduire l'efficacité de la détection des problèmes pouvant survenir. Cependant, serait-il pas plutôt possible d'augmenter le personnel pour assurer un meilleur service sans pour autant avoir à faire appel à la technologie ?
C'est vrai qu'on peut se dire qu'il serait possible de fonctionner, de repérer les situations dangereuses en fait pour l'être humain si on était plus nombreux à regarder les caméras. Mais pour ce qui est d'identifier des personnes considérées comme dangereuses, cela devient en fait plus difficile car reconnaître des visages particuliers dans une foule, c'est extrêmement compliqué. Et c'est aussi pour cela qu'on veut faire appel à l'intelligence artificielle pour que ça ne soit qu'une force, mais qu'elle ne remplacera pas l'opérateur, elle ne sera pas capable d'elle-même à faire appel aux forces de l'ordre. Elle servira en fait à avertir l'opérateur qu'une personne potentiellement dangereuse est présente, et il devra vérifier que ce soit l'identité en fait de la personne et si celle-ci représente réellement un danger avant que toute action de police ne soit mise en place. On a une petite interview qu'on va vous passer qui nous explique ce que l'IA pourrait apporter et pourquoi elle est déjà utilisée aujourd'hui.
Mon suspect, c'est éminemment politique et par exemple, quelqu'un qui est statique trop longtemps, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, il y a eu une expérimentation à la station Châtelet à Paris il y a quelques années pour repérer quelqu'un qui était statique plus de 300 secondes. En fait, il faut prendre un pas de recul. À quel moment c'est suspect d'être statique, et surtout si on l'applique ensuite dans l'espace public, quelqu'un qui est statique, généralement, c'est quelqu'un qui mendie. Il y a, en fait, l'espace public est politique, et des comportements qui peuvent être insignifiants sont aussi stigmatisants sur une partie de la population, et les personnes qui passent le plus de temps dans la rue sont des personnes, en général, vulnérables ou qui n'ont pas le choix d'être dans l'espace public.
Et alors, est-ce que l'on pourrait imaginer, Noémie Levin, que l'on restreigne ces algorithmes à des actes véritablement suspects? Je ne sais pas très bien ce qu'est un acte suspect, mais j'imagine que si on voulait essayer de justifier la présence de ce dispositif, on dirait toute personne qui s'apprêterait à commettre un acte criminel, voire un attentat.
Mais, et c'est là où on voit les limites. C'est évidemment pas du tout prédictible. Ça, c'est vraiment là de la technomagie, du technosolutionnisme. On ne peut pas définir ce qu'est un comportement suspect. Et même si, par magie, on pouvait, en fait, c'est tout l'espace public qui est analysé. On ne peut pas isoler juste un comportement, juste une silhouette. En fait, c'est tous nos comportements qui sont en permanence scrutés pour savoir si, justement, on doit aller dans la catégorie normale ou pas normale.
Comme le dit Noémie Levin, qui est juriste à la quadrature du net pour France Culture, on remarque bien les limites de cette méthode. Avec ces technologies, on doit définir les situations jugées dangereuses, mais cela ne signifie pas forcément qu'il y a un risque réel. Cela pourrait donc nuire à une partie de la société qui serait souvent classée dans les situations jugées dangereuses par l'ordinateur, alors qu'il n'y aurait pas réellement de raison notable.
Et c'est vrai que le choix de ces situations dangereuses peut être politisé, mais cela ne veut pas forcément dire que le système ne sera pas efficace. Le maire de Nice a eu l'occasion d'expérimenter ces nouvelles technologies lors du carnaval. Il s'agissait d'une phase de test et ne sera plus utilisée prochainement. Mais cela a permis de montrer que si les personnes ayant commis les attentats avaient été reconnues en considérant que ceci était déjà connu par les services de l'ordre, les attentats de Nice auraient pu être évités. Ce qui a été reconnu, c'est que les gens n'avaient pas de fichier en fait, au préalable avec leur visage pour qu'ils puissent être détectés. Et en réalité, l'IA n'aurait probablement pas reconnu ces individus dans la foule avant l'attentat. Et cela n'aurait pas forcément pu changer ce qui s'est passé.
Nous allons maintenant nous concentrer sur un autre aspect de notre vie privée qu'il faut aussi protéger, notre vie en ligne. Pour ça, avec Iris et moi, donc Louise, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Compiègne pour avoir leur avis et leur position vis-à-vis de leur vie privée et de la sécurité sur Internet. Pour ce faire, nous avons interviewé certains d'entre eux sous le format de micro-trottoirs en leur posant plusieurs questions. Mais juste avant ça, on va revenir rapidement sur deux notions que nous abordons dans le micro-trottoir, les VPN et les cookies. Les VPN ont émergé récemment avec notamment le fameux NordVPN, dont certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler, si vous regardez YouTube surtout. Mais du coup, qu'est-ce qu'un VPN ? Un VPN vient masquer votre adresse IP, adresse qui identifie votre réseau ou votre appareil, et ce camouflage protège vos données d'éventuels accès externes. Quant aux cookies qui apparaissent à la moindre de nos recherches généralement, c'est un moyen de récolter nos données en demandant notre autorisation. Lorsqu'on les accepte, le site est capable de suivre notre activité sur ce dernier. Ceci étant dit, voilà les réponses des Compiénois lorsqu'on leur a demandé s'ils pensaient que leurs données étaient bien protégées.
Pensez-vous que vos données sont bien protégées sur Internet ?
Ça dépend des fois, selon sur quel site je me rends ou ce que je regarde, par exemple.
Non, du tout.
Et pourquoi, par exemple ?
Parce que je pense que par tous les moyens, il peut y avoir des fuites.
S'agissant des données personnelles, je pense qu'en France, quand même, le RGPD nous permet d'avoir une certaine garantie sur la sécurité de nos données. Après, hors France et hors Europe, je pense que c'est beaucoup plus aléatoire et donc je ne suis pas très confiante sur effectivement la protection de mes données personnelles.
Je suis aussi confiant sur les sociétés françaises ou européennes, un peu moins sur les sociétés à l'étranger et peut-être encore moins sur les petites sociétés.
Non, je ne pense pas que mes données soient bien protégées.
Et pourquoi, par exemple ? Enfin, qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Je pense que les données sont très facilement accessibles quand même par des gens qui peuvent hacker ou des données qui sont vendues sur le dark web de manière... c'est très, très répandu, disons.
Moi, pas du tout. Je pense que toutes nos données, là, parfois, mon téléphone, je suis en train de parler à haute voix... Et deux minutes après, je reçois une pub de ce dont j'ai parlé, me proposant d'acheter ou de consommer quelque chose dont j'ai parlé à votre voix.
Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VPN et est-ce que vous en utilisez ?
Ah oui, à des fins professionnelles, je suis obligé d'utiliser le VPN pour accéder à mes applications professionnelles. Sinon, je n'en ai pas l'usage.
personnellement ?
Non.
J'utilise le VPN effectivement pour me connecter à mon réseau professionnel, notamment lorsque je ne suis pas au bureau. Sinon, pour mes données, mes connexions personnelles, je n'utilise pas le VPN. Non, j'en ai pas besoin, il me semble.
Moi, j'utilise pas de VPN, mais je pense que ça serait utile, par exemple, quand on est à l'étranger et que on aimerait avoir accès à des chaînes télé ou quoi, bah, on se géolocalise en France, comme ça on a accès aux chaînes françaises. Mais non, je n'utilise pas de VPN.
J'en utilise un, parfois, quand je dois me connecter sur justement certains sites, mais...
D'accord.
Alors, VPN, oui, ça me dit quelque chose, parce que mon fils, il nous en a déjà parlé. Je crois qu'il nous l'a installé sur un ordinateur, c'est un antivirus, non c'est...
Oui, j'utilise un VPN, notamment pour regarder des films en streaming.
Et est-ce que vous savez réellement à quoi ça sert ou pas, un VPN ?
À protéger mes données et à masquer mon adresse IP, je crois.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc, si vous allez quand même sur Internet, j'imagine, est-ce que vous acceptez tous les cookies sur Internet, par exemple ?
Pour ma part, je refuse les cookies lorsque je suis sur des sites commerciaux, sur des sites plus institutionnels. J'accepte les cookies qui permettent de faire des statistiques et qui permettent d'améliorer les fonctionnalités du site. Par contre, je refuse les cookies qui servent à des fins commerciales.
Lorsque la fenêtre s'ouvre pour me proposer d'accepter les cookies ou de continuer sans accepter, je préfère refuser et continuer sans accepter. Si j'ai pas le choix, j'accepte les cookies.
J'accepte que les cookies nécessaires, sinon je refuse.
Moi, exactement pareil. Si on en a besoin pour accéder au site, j'accepte, mais sinon, non.
Du tout, je les zappe à chaque fois. Je fais toujours non accepter.
Oui, mais j'essaye de le faire de moins en moins souvent et sur des sites auxquels je fais confiance.
Quel site, par exemple ?
Je sais pas, le site du gouvernement, par exemple.
D'accord.
J'essaie de les refuser, mais parfois ça nous demande de payer un abonnement ou c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, du coup finalement j'accepte.
D'accord, donc au final, vous faites pas particulièrement attention, mais non. Vous savez qu'il y a des dangers sur Internet.
C'est ça.
D'accord, et bien merci beaucoup.
Donc pour faire un petit bilan de ce micro-trottoir, on peut entendre à travers ces différents témoignages que les avis quant à la protection de nos données se ressemblent, mais qu'au final les personnes n'adoptent pas les mêmes comportements vis-à-vis des cookies. Souvent, la facilité d'utilisation et surtout d'accès prime sur la protection des données personnelles. Les personnes ont souvent conscience des différents dangers, restent méfiantes, mais n'appliquent pas forcément de grandes mesures pour les contrer. Pour désormais essayer de protéger davantage nos données, nous vous rappelons des bonnes pratiques conseillées par le ministère de l'Intérieur. Donc, il faut utiliser des mots de passe différents pour tous vos accès. Vous devriez aussi installer un antivirus qui vous protégera d'un éventuel espionnage. Vous devriez aussi vérifier vos paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux si vous en possédez. Et vous devriez aussi surtout vous méfier des emails douteux que vous pouvez recevoir pour ne pas être proie au phishing. Et ainsi, et pour finir, éviter de vous connecter au Wi-Fi public sans ce fameux VPN. Donc moi, personnellement, j'ai tendance à souvent accepter les cookies car c'est beaucoup plus rapide. Au final, si je fais une recherche rapidement sur Internet, je vais toujours choisir la facilité, même si au final, je me rends bien compte que j'aurais faire plus attention à ce que j'accepte. Et toi, par exemple, Louise, est-ce que tu acceptes souvent les VPN ? Est-ce que tu as les cookies ? Est-ce que tu as un VPN ?
Alors non, j'ai pas de VPN. Peut-être qu'un jour, je vais y mettre, hein, à force de voir tous les placements de produits NordVPN sur YouTube. C'est vrai que ça vend un peu du rêve, entre guillemets, parce que c'est vrai que je suis une
très mauvaise élève.
Tu parles.
Merde. Et ben... petit problème technique. Mais du coup, je disais oui, non, pardon, oui, j'accepte tous les cookies, mais je n'utilise pas de VPN. Peut-être qu'un jour, je vais m'y mettre, à force de voir tous les placements de produits dans VPN. Ça vend un peu du rêve, mais non, pour l'instant, je n'utilise pas de VPN et j'accepte tous les cookies. Je suis un peu une mauvaise élève là-dessus, enfin tous les cookies. Dès qu'en tout cas, ils sont obligatoires pour accéder au site. Après, je ne sais pas si Alba et Alizée, vous avez des comportements différents vis-à-vis des cookies.
Moi, j'avoue que j'ai un peu le même comportement que toi. Je pense que...
C'est la facilité.
Je reçois une notification, est-ce que j'accepte les cookies ou pas ? J'accepte. Et là, par exemple, sur mon ordinateur, j'ai un virus avec une notification qui apparaît toutes les heures. Vous avez un virus. Après, est-ce qu'il est en train de collecter mes données ? Est-ce qu'il est en train de me voir à travers ma caméra ? J'espère pas.
Peut-être mais... un cache-caméra, du coup ? Non, même pas.
Même pas. Non, il faut vraiment que... En plus, je suis au courant des problèmes, je suis consciente, mais j'avoue que je n'agis pas en conséquence. C'est pas bien.
Alors, personnellement, moi, j'ai un VPN. Alors, pour les bonnes et pour les mauvaises raisons, je pense un peu comme tout le monde, pour pouvoir accéder à des séries en streaming dans d'autres pays, mais aussi pour une question de sécurité, parce qu'on se rend compte que la plupart de nos données sont en fait retracées et revendues. Et justement, avoir un VPN... L'idée, c'est de rendre en partie intraçables, ou du moins les rendre beaucoup moins faciles à tracer pour les pirates. Et du coup, pour la revente de données, en fait, on est beaucoup moins touché. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dans un VPN. Et maintenant, on va faire une petite coupure musicale avec une musique qui s'appelle Stalker de Jack Daniels, qui, on trouvait, avait un sens avec notre émission, puisque au final... Les collectes de données, c'est un peu comme du stalking. I don't got problems, I'm just honest, say you hate that, don't you? You like to stare at me and watch so you can say I told you. Whenever I do something wrong, you always tell me that I'm a lost cause. You look at my life, you pick it apart, but what if I don't give a f***? You make me feel like you're an S-T-A-L-K-E-R, a stalker. You wanna watch my every move, you're a stalker. You follow me home after school. You got your notifications on. You watch my stories to get you off. You're a stalker. Yeah, I'm an S-T-A-L-K-E-R. I don't get why you always pick on me, you're so annoying. You're an S-T-A-L-K-E-R, a stalker. You wanna watch my every move, you're a stalker. You follow me home after school. You got your notifications on. You watch my stories to get you off. You're a stalker. Yeah, you're an S-T-A-L-K-E-R, a stalker. You wanna watch my every move, you're a stalker. You follow me home after school. You got your notifications on. You watch my stories to get you off. You're a stalker. Yeah, you're an S-T-A-L-K-E-R, a stalker. You wanna watch my every move. You're a stalker. You follow me home after school. You got your notifications on. You watch my stories to get you off. You're a stalker. Et si on se demande à quoi peuvent servir les données qu'on a récoltées sur nos téléphones et autres appareils électroniques, on peut très facilement du coup aborder l'affaire Snowden. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un agent du renseignement américain qui travaillait pour la NSA. Au cours de cette affaire, en fait, on découvre que principalement les données ne sont pas en fait toujours utilisées par des organismes malfaiteurs, mais aussi par nos propres gouvernements, sans pour autant qu'on en ait conscience. Cette affaire, en fait, elle a démontré que les États se servent de toutes les données collectables que nous sommes conscients de transmettre, c'est-à-dire, par exemple, les cookies qui peuvent être récupérés, les sites sur lesquels on est connecté. Et les sites après. Et on se rend compte aussi que le plus grave, c'est que les données confidentielles de l'espionnage direct de tous nos appareils sont aussi collectées. Ce n'est pas, en fait, finalement, que ce qu'on poste sur les réseaux. Et c'est là que ça pose un problème à niveau des différences entre la vie privée et la sécurité.
Oui, bien sûr. Que l'on souhaite pouvoir se sentir en sécurité, oui. Mais pas forcément aux dépens de notre vie privée. On peut dire que l'on ne cherche qu'à savoir si une personne est dangereuse pour la société. Mais ici aussi, qui définit ce qui est dangereux ? Un parent trop strict est-il dangereux ? Ou bien quelqu'un qui s'intéresse au maniement des armes est-il dangereux ? Deviendrait-il responsable d'une tuerie de masse ? On ne peut pas simplement espionner une personne simplement parce qu'elle en connaît une autre. Il faut aussi souligner le fait qu'il n'y a aucune régulation dans ce que l'on peut récupérer.
Justement, c'est là qu'en fait est tout le problème. On ne veut pas que le gouvernement sache ce qu'on ne lui a pas confié, tel que notre localisation de manière permanente, ou bien ils peuvent aussi savoir, dans certains cas, qu'un enfant est né avant même qu'il ne soit déclaré lors de naissance à domicile. On voit que dans cette affaire aussi, la population n'est pas au courant, dans un premier temps, de ce genre de pratique, mais aussi, et plus important, qu'elle n'est pas d'accord avec celle-ci. Et puis, en quoi est-ce si différent du système chinois qui est autant critiqué dans nos pays occidentaux, où au final, on récupère essentiellement les mêmes données. La différence, c'est qu'elles ne sont pas utilisées en accord avec les lois, ce qui nous semble plus juste en tant qu'occidentaux. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais est-ce que vous êtes conscientes que des données comme votre localisation ou vos micros, qui sont en fait ouverts en permanence, sont collectées par l'État sans que vous l'ayez accepté à aucun moment ?
Bah, c'est vrai que moi, à un moment, je me suis déjà posé la question, est-ce que là, on m'écoute ou pas ? Parce que c'est vrai que parfois, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais j'avais des discussions comme ça avec mes sœurs, et parfois sur un sujet, et tout d'un coup, je recevais une publicité par rapport à ce sujet. Je ne sais pas, par exemple, on allait parler de chaussures, et tout d'un coup, j'allais avoir une publicité de chaussures, et du coup... C'est vrai que tu te poses la question, est-ce que c'est le hasard ? Est-ce qu'on nous écoute vraiment ? Est-ce que toutes nos données sont récoltées ? Et c'est vrai que parfois, tu te dis, ça peut être un peu effrayant quand même.
Oui, mais surtout que là, on parle de l'État. C'est vrai que bon, je me suis toujours dit, moi, à tout moment, il y a un stalker oui, qui m'écoute, qui regarde à travers ma caméra. Mais l'État, c'est vrai que ça m'était jamais... Je me suis jamais dit, il y a un membre du gouvernement, enfin en tout cas... Oui, un membre du gouvernement qui éventuellement regarde ce que je fais parce que bon bah je sais pas, tu dis le gouvernement t'as confiance en lui entre guillemets généralement et tu dis pas il va suivre le moindre de mes faits et gestes pardon et bah potentiellement que si donc ça paraît très dystopique mais bon bah peut-être qu'on vit dans une dystopie du coup.
Et moi, ce qui me dérange surtout, c'est vraiment l'aspect commercial. Enfin, si on peut, enfin déjà, en tout cas, pour la caméra, on peut bloquer manuellement l'accès à notre caméra en mettant un post-it ou un bout de scotch, je sais pas, sur la caméra de notre ordinateur. Mais au niveau de tout ce qui est audio, c'est plus compliqué. Et c'est comme, enfin, comme tu disais, Alizée, et comme on a pu voir tout à l'heure avec les micro-trottoirs, enfin, on a un peu tous la même impression et
ouais, pourtant,
ça pas m'étonnerait que ce soit une coïncidence. Après, je ne sais pas trop.
Après. Le problème, je pense aussi que c'est l'idée que ce soit, comme tu disais, Louise, que ce soit les gouvernements, en fait, qui nous espionnent, dans un sens où on se dit toujours que si on ne fait pas d'erreur, si on n'a pas de casier judiciaire ou quoi que ce soit, il n'y a aucune raison pour laquelle on peut être surécoute ou espionné, oui. En fait, par un gouvernement, parce qu'on n'a, entre guillemets, rien fait de mal. Et on se rend compte qu'en fait, la législation, vu qu'en fait, ce n'est pas réellement dans la légalité que ça se fait, vu que personne n'a consenti à quoi que ce soit, l'État fait un peu ses propres règles. Et aux États-Unis, on a remarqué du coup que bah, dans l'idée, c'était on prend une personne à risque et on prend les 10 personnes les plus proches, puis les 10 personnes les plus proches de ces personnes. Et au final, bah, on se retrouve avec l'entièreté de la planète en faisant des arbres comme ça. Et il faut savoir que bah, du coup, Edward Snowden, qui est la personne qui a révélé cette affaire, a été extrêmement critiqué par son propre pays et par certains même des citoyens qui trouvaient que on ne devait pas révéler les techniques qui nous permettaient de protéger notre pays. Mais en contrepartie, on a vu aussi un grand nombre d'Américains qui s'est levé et qui a affronté son pays en disant que ce n'était pas normal et qu'ils ne voulaient pas que leurs données soient récupérées comme ça. Aujourd'hui, la NSA a supposément fermé, ce qui n'est pas entièrement sûr, puisqu'en fait, on ne sait jamais ce qui se passe derrière les rideaux fermés, vu que c'est une agence de sécurité secrète, entre guillemets. Mais Edward Snowden a été condamné et il est aujourd'hui exilé en fait en Russie parce qu'il ne peut pas retourner dans son pays sans risquer la peine de perpétuité, voire la peine de mort, en fait. Et pour ça, on vous a choisi une petite chanson de Taylor Swift qui s'appelle Exile, qui nous a fait penser à la situation d'Edward Snowden actuellement.
I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before.
See you staring, honey, like he's just your understudy, like he'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches, those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, didn't like the ending. I'm not your problem anymore, so who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving out the side door.
So step right out, there is no amount of crime.
Bonjour. Donc, en plus de violer notre vie privée et même de contrôler notre vie à une certaine échelle, comme par exemple le cas de la Chine et du crédit social qu'on a expliqué plus tôt, l'accès à nos données personnelles pourrait avoir aussi des répercussions directes sur nos modes de pensée, sur nos opinions, en nous influençant et en nous aliénant. Le cas le plus connu met parfaitement en évidence ce cas de figure. En effet, vous avez sûrement déjà entendu parler du scandale touchant l'entreprise londonienne Cambridge Analytica, utilisée par Donald Trump pour avantager sa campagne présidentielle en 2016 aux États-Unis. Cette société a été accusée d'avoir volé les données de plus de 30 à 70 millions d'utilisateurs de Facebook, sans la permission de ces derniers. Ces données ont été collectées à l'aide d'un quiz de personnalité qui volait les données des participants, mais aussi celles de leurs amis Facebook, ce qui explique les proportions titanesques après ce quiz.
À cette époque, Facebook autorisait cette collecte d'informations. Les données des utilisateurs ont ensuite été exploitées pour la mise en place de publicités et annonces extrêmement ciblées sur Facebook qui mettaient en avant, plus ou moins directement, la campagne de Trump. Par exemple, selon Le Monde, les équipes de Trump mettaient en avant chez les électeurs noirs une animation dégradante de sa concurrente Hillary Clinton, citant « Hillary pense que les Afro-Américains sont des super prédateurs ». De plus, le prélèvement des données par Cambridge Analytica fut bien intentionnel et délibéré car le principal actionnaire de cette société était aussi un des principaux donateurs de la campagne de Donald Trump. Cet exemple très célèbre nous montre à la fois l'insécurité de nos données sur les réseaux sociaux tels que Facebook et la potentialité d'une manipulation presque omniprésente dans nos choix privés. Depuis ce scandale qui avait éclaté en 2018, Facebook a refusé l'accès aux données des utilisateurs à des milliers d'applications soupçonnées d'abus de données. Facebook a rendu plus intelligible alors pour les utilisateurs le choix des restrictions vis-à-vis du partage des données personnelles. Sauf que bien que Facebook ait renforcé les politiques de protection de données, est-ce pour autant fiable ?
Aujourd'hui, Facebook a dû payer en fait une amende aux utilisateurs qui l'ont demandé. Les utilisateurs ayant eu un compte aux États-Unis lors de la campagne présidentielle et ayant pu voter peuvent remplir un genre de questionnaire pour lequel ils ont l'impression d'avoir changé d'avis politique à cause ou grâce à Facebook. Et dans ce cas-là, Facebook leur doit de l'argent à cause d'un procès qui a duré pratiquement 4 ans. Et on remarque aussi que aujourd'hui, les données qui sont récoltées par Facebook, mais par les autres applications, en fait, les réseaux sociaux, c'est énorme. Ce qu'on voit, l'application TikTok aujourd'hui, la manière dont ils arrivent à cibler réellement le contenu pour une certaine personne, c'est impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les filles, mais la capacité d'un algorithme à comprendre ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est impressionnant.
C'est vrai. Alors, j'ai plus TikTok depuis maintenant quelques mois, mais c'est vrai que l'algorithme, je ne sais pas si quelqu'un sait réellement comment c'est fait, parce que j'ai l'impression que c'est du machine learning. Du coup, même ceux qui créent l'algorithme, entre guillemets, quelquefois ne le contrôlent pas. Mais c'est toujours ciblé. Ça s'adapte à nous, entre guillemets, et en même temps, on voit que quelquefois, t'as certaines choses qui passent et tu dis « Ah, ok, ça, c'est étrangement relié à moi tout ça. Pourquoi ? Comment ? Qu'ai-je fait ?»
C'est vrai que les réseaux sociaux, ils veulent qu'on reste sur nos écrans, qu'on continue à utiliser Instagram, Snapchat par exemple, aussi avec les flammes. Ils veulent nous rendre très addicts. Et c'est vrai que justement, l'algorithme va nous proposer des vidéos et des posts reliés à ce qu'on recherche. Et il y a aussi une série Netflix qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », donc « Social Dilemma » aussi en anglais. C'est un documentaire qui examine justement comment la conception des médias sociaux est faite. Et comment est-ce qu'ils ont la capacité à manipuler les opinions, les émotions et les comportements des gens et à propager aussi les théories du complot, par exemple, et la désinformation. Et c'est un film très intéressant et je vous conseille de le regarder ce soir si vous avez le temps. Je répète, c'est Derrière nos écrans de fumée sur Netflix.
Je le ferai.
Et même pour venir un petit peu sur TikTok, je trouve ça toujours dommage de se refermer dans ce type de bulle où au final on aura toujours le même contenu, on verra toujours le même type de vidéos ciblées. Et même si cet algorithme est fait pour nous conforter, pour voir toujours les mêmes choses et qu'on s'y habitue, qu'on reste de plus en plus de temps sur ces réseaux sociaux, c'est toujours dommage de ne pas pouvoir s'ouvrir et découvrir toujours de nouveaux contenus à chaque fois. Et je trouve ça dommage de mon point de vue en tout cas.
Pour rebondir là-dessus, comme disait Louise, il y a du machine learning dans ces nouvelles applications. Et c'est vrai qu'au tout début du coup, c'était pas TikTok à l'époque, c'était Musical.ly. On a connu quand on était encore au collège, je pense, on l'a toutes peut-être utilisé. Et à l'époque, c'était pas hyper performant. En réalité, on avait tout le temps le même type de vidéo qui évoluait pas. Et aujourd'hui, enfin, je trouve même encore plus flagrant que TikTok, parce que TikTok, au final, c'est vraiment un réseau social qui est hyper fermé. Quand on prend Instagram, qui a accès à beaucoup plus de nos données, malheureusement, parce qu'ils ont nos messages avec nos amis et grâce à Messenger, ils ont Facebook, et maintenant, du coup, il y a les réels sur Instagram. Et en fait, ça évolue, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis en train de penser à faire de la couture, et du coup, j'ai fait une recherche de couture sur Internet, et j'ai regardé des réels de couture, et ils vont me remettre un truc de cuisine comme ça, en plein milieu, et vu qu'ils ont vu que j'avais bien aimé le truc de cuisine... Ça change et on met des vidéos de cuisine et ça fait peur. C'est-à-dire que ça évolue vraiment avec nous et en même temps, ça nous impose l'idée. J'étais en train de penser à quelque chose, il m'a proposé une nouvelle idée, j'ai accepté l'idée.
Ça nous influence beaucoup.
Et c'est là qu'on remarque en fait l'influence que ça peut avoir. Mais il n'y a pas que ça en fait dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que les politiciens ont compris que...
Les politiciens sur TikTok, on les a vus pendant la campagne.
En même temps, c'est ridicule et en même temps, c'est bien parce que c'est une manière de rendre accessible la politique aux plus jeunes, puisque aux plus jeunes pouvant voter, évidemment, aux 18-25 ans, on remarque qu'on n'est pas forcément très intéressé en fait, par la politique. On remarque que c'est chez les jeunes qu'il y a le plus haut taux d'abstention lors des campagnes. Mais en même temps, la manière vu que c'est très peu réglementé, les campagnes sur les réseaux sociaux... Les vidéos comme celle de McFly et Carlito avec le président actuel, on peut se demander si c'est pas aussi un moyen de convaincre l'électorat sans pour autant vraiment lui faire passer des idées politiques, plutôt une question en fait de charisme et d'être drôle en fait, ce qui n'est pas sympathique. L'objectif.
C'est vrai, c'est vrai. Personnellement, oui, effectivement. Alors j'ai été sur TikTok à l'époque de la campagne, j'étais trop jeune pour voter, mais c'est vrai que ça me faisait bien rire de voir presque la plupart des politiques créer leur propre compte TikTok. Et tu te dis, mais est-ce que la politique, vraiment, ça pose la question, est-ce que ça a sa place sur TikTok ? Après, oui, chacun... Quel est le but, finalement ? Est-ce qu'il... le but, c'est d'influencer, forcément. Mais après, à voir, parce que quelquefois, c'est plus des blagues, entre guillemets, que réellement de la politique. Mais ces personnes restent quand même des figures politiques qui, en l'occurrence, allaient se présenter au présidentiel. Et du coup, ça pousse peut-être les gens à voter pour eux, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour leurs idées et leurs projets politiques, mais parce qu'ils nous paraissent sympathiques.
C'est vrai que c'est la meilleure manière aussi d'atteindre les jeunes, que c'est à travers les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les jeunes de nos jours, ils vont moins aller acheter le journal, moins regarder les news. C'est vrai que il y en a qui ont quand même les applications Le Monde sur leur téléphone et tout. Mais c'est vrai que la première chose qu'on fait, c'est dès qu'on se réveille, en général, on prend nos téléphones. Et on scrolle sur Instagram, on va sur TikTok et je pense que justement de se créer un compte TikTok, je sais pas si c'est la meilleure manière et c'est peut-être pas le meilleur contenu qu'on offre aux jeunes, mais en tout cas pour les atteindre, je pense qu'ils ont bien fait d'aller sur TikTok.
Je pense que ça a été un très bon moyen en fait de convaincre les jeunes sans pour autant les convaincre politiquement en fait de notre avis. On fait des vidéos drôles, des vidéos gags. Franchement, il y a aucune politique et c'est là qu'ils ont le droit, entre guillemets, de poster sur les réseaux sociaux parce qu'on n'a pas le droit de faire de la politique à proprement parler sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pas ce qu'ils font, mais en fait, ils achètent un électorat plus jeune qui n'a pas vraiment de connaissances politiques et qui ne réfléchit pas. Et même pour les générations qui ne peuvent pas encore voter, en fait, c'est les convaincre et leur faire apprécier une personne avant même qu'ils ne se posent des idées d'aller voter ou non. Et du coup, quand on se retrouve face à un choix, ben on se dit « Ah, ben, cette personne-là, j'ai l'impression, entre guillemets, de la connaître plus que quelqu'un d'autre. » Et du coup, on va voter pour elle plus facilement.
Mais je suis tout à fait d'accord. Et par exemple, moi, je pense surtout, je ne sais pas si vous voyez, mais le compte Instagram de Jean-Luc Mélenchon, qui pose surtout des vidéos drôles, etc., sans aucun caractère politique, et juste dans l'optique de se familiariser avec les plus jeunes et de faire en sorte que les jeunes vont s'habituer à leur présence sur les réseaux pour ensuite se dire cet homme politique a l'air si sympathique. Sans pour autant connaître aucune de ses idées politiques. Donc au final, je trouve ça vraiment dommage, mais oui. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Louise, au départ.
Après, il y en a d'autres qui s'expriment beaucoup aussi. On pense notamment à Donald Trump sur Twitter. Je ne sais pas s'il est de retour sur Twitter maintenant, mais en tout cas, il a été banni parce que, bon, quelquefois, il racontait pas forcément des propos véridiques. Donc bon. Les politiques et les réseaux sociaux, c'est une nouvelle histoire d'amour, peut-être. Mais bon, risqué. Et puis ça fait réfléchir aussi à l'influence que ça peut avoir sur le vote des gens.
Et aussi, ce que je trouve ça bien avec les réseaux sociaux, c'est au-delà du fait que les politiciens l'utilisent pour transmettre de l'information, c'est aussi que chacun peut donner librement son avis, s'exprimer. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il n'y a aucune règle, contrairement aux journaux qui peuvent être plus de gauche ou plus de droite. Les réseaux sociaux, c'est vraiment un endroit où tu as tout genre de population qui est mélangée. Et c'est vrai que c'est plus les jeunes qui l'utilisent. Et du coup, c'est peut-être aussi les problèmes qui sont abordés sur les réseaux sociaux. C'est plus des problèmes qui concernent donc les personnes plutôt jeunes, et c'est vrai que si on veut plus se renseigner et savoir la vie des autres, on fait recours aussi aux réseaux sociaux.
Et du coup, c'est vrai que je pense qu'on a à peu près tout le même avis sur le fait que les réseaux sociaux, c'est en partie bien parce que ça permet de démocratiser en fait la politique et de les avoir un peu tous sur la même plateforme et à portée de tous et surtout des jeunes, mais en même temps, vu que c'est quelque chose qui est extrêmement récent aussi, vu qu'on a eu au final qu'une élection présidentielle dans laquelle ça a pu être utilisé en France, on n'a pas, je pense, le recul nécessaire pour réellement le réglementer de manière efficace. Et du coup, aujourd'hui, c'est un petit peu tout le monde fait ce qu'il a envie. Et comme du coup, tu as parlé de Twitter, et Twitter, c'est justement l'endroit parfait pour faire ça. C'est-à-dire que les tweets sont hyper courts, parce qu'on a un nombre de caractères limité, et au final on se rend compte que la plupart des posts, que ce soit des politiques ou autres, en fait c'est vraiment des avis hyper réduits. Il y a pas d'explication, contrairement à ce qu'on aurait dans un journal TV ou papier, où quand on a un avis, on a la possibilité en fait de l'expliquer réellement, ce qu'on n'a pas sur Twitter. Et du coup, pour faire une petite coupure, on va vous passer une musique de Stromae qui s'appelle Carmen, qui justement parle de cet effet des réseaux sociaux sur le monde.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi, et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour
l'enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
J'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime. Comme ça qu'on s'aime.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats.
Sur ces données volées, ben on va vous parler, c'est évident, de tout ce que les entreprises privées et les gouvernements, parce qu'ils sont, il y a aussi des pirates dans ce genre d'endroit. Et cette fois-ci, en fait, les données, elles sont utilisées de manière complètement illégale, que ce soit pour demander des rançons aux propriétaires des données ou bien pour l'usurpation de l'identité de ces mêmes personnes. On remarque que ces piratages peuvent prendre vraiment une grande ampleur, avec notamment l'affaire Equifax, qui a montré que la moitié des Américains, soit plus de 140 millions de personnes, en fait, avaient vu leur nom, prénom, adresse et date de naissance et numéro de sécurité sociale volés par des hackers. Et cela prouve en fait que malgré toutes les bonnes volontés d'une entreprise à ne pas révéler ces informations, si elles sont conservées, elles pourront toujours être utilisées contre les citoyens, que ce soit par les gouvernements ou par justement des pirates avec des mauvaises intentions.
Et finalement, avec toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui sur la surveillance, questions que l'on s'est d'ailleurs posées durant cette émission, on peut faire le parallèle avec une affaire qui remonte à quelque temps déjà, l'affaire Watergate. En juin 1972, avant sa réélection, le président républicain des États-Unis, Richard Nixon, s'est retrouvé au centre de l'affaire du Watergate. Vous en avez peut-être entendu parler, elle est quand même extrêmement célèbre. Donc en juin 72, des cambrioleurs ont été arrêtés sortant des locaux du Parti démocrate. Le seul problème, c'est que ces hommes n'étaient pas des cambrioleurs lambda, mais il s'agissait des membres de la CIA et du chef de la sécurité de comité de réélection de Nixon, transportant du matériel d'écoute. Si au départ, l'enquête du FBI n'est pas allée très loin, l'affaire a été révélée au grand jour par un mystérieux informateur surnommé Deep Throat, gorge profonde, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, et deux journalistes du Washington Post. L'intrusion visait à saboter la crédibilité du Parti démocrate afin de favoriser la réélection du président. Et si Nixon est effectivement réélu en novembre 1972, sa collaboration à l'affaire et le scandale qui s'ensuit le poussent à démissionner en 1974. Cette histoire fait donc écho à la surveillance de masse que l'on retrouve aujourd'hui, avec l'affaire Snowden dont on a parlé notamment. Et la protection des technologies entraîne... on voit que la protection des technologies entraîne de réels enjeux sociétaux auxquels les gens sont plus ou moins sensibles. Si certains font très attention à l'utilisation de leurs données en ligne, beaucoup ne voient pas vraiment le danger. Et c'est donc à chacun de voir ce qu'ils font face à ça. Comme on dit souvent, tout ce qui est mis sur Internet ne nous appartient plus vraiment. Mais après, on peut se dire que quand la surveillance traverse nos écrans pour empiéter sur notre vie privée, nos actions et nos choix, est-ce qu'il est vraiment possible de tout accepter ? Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous avez passé un bon moment, les filles ?
Un très bon, bon moment.
Un super moment.
J'espère que les auditeurs aussi.
Voilà. On se retrouve une prochaine fois pour une émission sur un tout autre sujet. On vous dit à très bientôt. Passez une très bonne journée. Bisous.
Et à bientôt.